Vous êtes sur RTL.
Nous sommes en direct.
14h30, 15h30.
On est fait pour s'entendre.
Avec Flavie Flamand sur RTL.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé un bon week-end à l'écoute d'RTL. Bien sûr, les saisons ont filé, les semaines aussi. Les jours se sont poussés les uns les autres. Et nous voici à l'aube de la dernière semaine d'On est fait pour s'entendre. 10 ans que nous conversons chaque jour. Votre magazine de société de réflexion s'arrêtera définitivement vendredi en direct et avec vous. L'occasion pour nous de vous manifester toute notre gratitude dans une émission. Vous voyez, ça me prend déjà là, au cœur. Dans une émission qui se promet forte et émouvante. Mais la séparation sera de courte durée, rassurez-vous, car nous nous retrouverons sur RTL dès le 23 août à 20h pour un nouveau magazine baptisé Jour J. Dans cette attente et à la saison des amours, nous allons parler, Pascal, vous le disiez, du mariage. On en rêve parfois depuis que l'on est petit, un peu comme la concrétisation d'un conte de fées qu'on nous a raconté. Mais derrière la jolie robe, la fleur à la boutonnière du costume trois pièces, la marche dans la mairie ou l'église, l'échange des alliances ou encore la décoration romantique du lieu qui va accueillir les convives, un gros travail de préparation et de logistique est nécessaire à l'aboutissement de l'événement. Et tout ne se déroule pas toujours comme prévu, que ce soit dans l'organisation ou dans le comportement des invités. Alors le jour J du mariage est-il vraiment le plus beau jour de notre vie? En attendons-nous beaucoup, peut-être trop? Peut-on vraiment profiter sereinement de cette journée, de cet instant? Retour donc jusqu'à 15h30 sur vos mariages tip-top et vos mariages cata. Mais pour l'heure, dans cette émission, Virginie Giraud. Bonjour Virginie.
Bonjour Flavie.
Merci d'être avec nous. Vous êtes docteur en histoire, spécialiste des femmes et de la sexualité. Vous sortez d'un mariage?
Non, j'étais en tournage ce matin.
Pour ceux qui nous suivent sur rtl.fr, regardez, elle est magnifique.
J'étais en tournage gallo-romain, alors j'ai mis des bijoux du deuxième siècle.
Vous avez fait péter les bijoux du deuxième siècle. La robe blanche, absolument magnifique, on pourrait vous embarquer comme ça, soit vous suivre pour votre mariage, soit vous inviter à un mariage, ce qui n'est pas forcément mon cas, vous l'aurez remarqué. Quoique, justement, la première chose aussi dans un mariage, c'est l'apparence, qui a beaucoup changé aujourd'hui. On en voit qui se marient en basket, avec des robes de toutes les couleurs, avec des costumes en veux-tu, en voilà. Et parfois même en jean et t-shirt, les gens n'ont peut-être pas la même attache finalement, le même attachement à l'apparence. Est-ce que la robe blanche a toujours été de mise?
Et non, la robe blanche c'est une invention du 19e siècle avec l'époque victorienne. Donc on est plutôt au milieu du 19e siècle. C'est quand l'image de la pureté de la mariée devient très importante. Avant, on se marie plutôt en rouge parce que c'est la couleur de la vitalité, du sang, des enfants à venir aussi peut-être. Et encore avant, à Rome, eh bien la mariée portait un voile couleur safran qui s'appelait le flaméum.
C'est beau ça?
Oui, c'est très joli.
C'est sexy?
Bah, c'était assez sexy. En dessous, elles avaient une tunique droite, la tunica recta, qui était nouée, comme on le voit dans la série Domina, qui passe actuellement à la télévision, à un nœud que le mari devait défaire le soir des noces pour pouvoir lui enlever sa robe.
Donc il y a toujours quand même cette symbolique de l'union.
Tout à fait, oui.
Quoi qu'il arrive, dans la tenue, la symbolique de l'union, la symbolique de la virginité.
Bien sûr.
Est-ce qu'on demandait aussi, à cette époque ancienne, aux femmes d'être vierges, comme on a pu le demander à l'époque de la robe blanche?
Pour un premier mariage, oui, c'est une obligation. On se marie vierge parce qu'on apporte un ventre pur de toute
de fécondité,
semence à son époux. Et effectivement, c'est important.
Et l'homme, là-dedans?
Ah ben non, l'homme...
Lui, il peut s'être éclaté, avoir éprouvé différentes sensations, avoir fait l'amour, quoi.
Voilà, c'est ça. De toute façon, dans l'Antiquité, les maris ont en général 10, 15, 20 ans de plus que la jeune fille qui a en moyenne 14, 15 ans à la première union. Donc les hommes, effectivement, eux ont eu le temps d'aller voir des courtisanes, des prostituées, d'essayer des esclaves. Et puis après, c'est resté dans le temps. Les hommes ont le droit d'aller se faire déniaiser, comme on disait avant.
Est-ce que c'était déjà la grande bamboche?
Alors... Quand on avait les moyens,
est-ce qu'on faisait la fête?
Ouais. Oui, ça a toujours été effectivement un moment festif qui réunit les gens, parce qu'il faut constater l'union. Hein. C'est un contrat entre deux familles à la base, et puis ça l'est encore quelque part un peu aujourd'hui. Donc effectivement, il y a des gens qui viennent, qui sont témoins des événements, qui partagent la liesse du jeune couple et qui les accompagnent souvent jusqu'à la porte de la chambre à coucher.
Et la dot?
Et la dot, pendant très longtemps, les femmes ont dû apporter une dot, c'est-à-dire des biens, de l'argent, de la vaisselle, du linge, pour constituer le ménage. Évidemment, cela incombait aux femmes, hein, puisque c'était elles qui allaient régner sur le foyer.
Et donc, la place de la femme dans cette histoire, fallait assurer la dot, fallait assurer les virginités. Il y avait déjà le poids, finalement, qui reposait beaucoup sur les épaules des femmes.
Oui, tout à fait. Le mariage vient mettre la femme au centre de la cérémonie. Ouais. Elle rentre dans la famille de son conjoint. conjoint. Elle va devenir mère de famille, matrone, la reine du foyer. Alors bon, évidemment, quand on a un peu d'argent dans la bourgeoisie, dans l'aristocratie, c'est plus sympathique que quand on épouse le paysan du coin au Moyen-Âge, c'est sûr.
Mais là, vous nous faites rêver quelque part, vous nous racontez une belle histoire. Mais est-ce que le mariage était réellement une belle histoire? Parce que ça reste un conte de fées qu'on raconte aux gens, et on va en parler dans un instant avec Sylvie.
Alors, déjà, le mariage d'amour, c'est quelque chose de récent. C'est l'Église qui va lancer l'idée du mariage d'amour au XVIIIe siècle. Vous savez pourquoi, Flavie?
Non.
Parce qu'ils en ont marre des gens infidèles.
Ah, bah voilà, par hasard.
Donc, ils disent que si jamais les gens se marient par amour, ils seront fidèles plus longtemps.
Ouais.
Quelle blague.
Bon, on va se retrouver dans un instant parce que Sylvie va intervenir sur cette antenne. Elle va nous raconter son mariage. C'était le 10 novembre 2018. Elle va nous raconter. Et là, pour le coup, c'est vrai qu'on pourrait se dire, Sylvie, quand vous nous racontez tout ça, non, mais c'est une blague. Ça n'est pas possible que vous ayez vécu un mariage pareil. Ce sera dans un instant avec vous, Sylvie, en direct sur l'antenne d'RTL. À tout de suite.
RTL. Flavie Flamand. Flavie Flamand sur RTL.
Jusqu'à 15h30.
On parle du mariage aujourd'hui, jusqu'à 15h30. On nous raconte toujours le mariage comme une sorte de conte de fées. Mais est-ce qu'on en attend un peu trop, peut-être? Est-ce qu'on peut vraiment profiter pleinement de cet instant? Et puis, est-ce que c'est toujours vraiment le plus beau jour de notre vie? Voilà, 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 comme dirait Barbara Pravi. Et c'est un peu ce que vous avez dû vous dire, Sylvie, à l'issue de ce 10 novembre 2018. Bonjour, Sylvie.
Bonjour, Flavie.
Voilà, voilà, voilà. Eh ben, dis donc. Écoutez, faut en faire un film.
Ah ben, quand on raconte ça aux gens, ils m'ont dit, ben, tu peux tourner un film.
Mais on en ferait un film que ça semblerait presque improbable. C'est-à-dire.
Et pourtant,
que...
je vous assure que c'était vrai et c'était pas risible.
Non mais c'est j'imagine. Est-ce qu'avec le recul, quand même, vous arrivez à en rire?
Ben, on en rit puis on se dit que notre amour, il était plus fort que tout.
Oui, parce que là, quand même, c'est vrai que ça pourrait être interprété comme des signes. Hein, quand... Vous m'en voudrez pas parce que forcément à un moment donné on a presque envie de, enfin ça va tellement crescendo cette histoire qu'on a on ne peut pas s'empêcher quelque part d'être à la fois stupéfait et d'avoir envie quelque part effectivement d'en rire et de saluer votre ténacité effectivement. Alors on est le 10 novembre 2018, 5 semaines avant le mariage, il y a déjà le premier couac.
Bah, le premier couac, c'est que 5 semaines avant le mariage, je me suis retrouvée en allant faire des courses pour le mariage avec mon pied dans le plâtre.
Vous en aviez pour combien de temps?
J'en avais pour 6 à 7 semaines, mais j'avais négocié avec le médecin.
D'accord.
J'avais dit, vous faites ce que vous voulez, mais moi, le 10 novembre, je ne peux plus être dans le plâtre.
Donc déjà, vous saviez que vous alliez être au moins déplâtrée?
C'était une bonne chose.
Bon, ça, c'était une bonne chose, qu'il fallait évidemment que vous puissiez porter une belle robe.
Ben oui, quand même, parce que ce mariage, on le voulait vraiment, vraiment, vraiment.
D'accord. Alors donc, cette fameuse robe, elle était canon?
Ben écoutez, quand je suis allée pour aller la choisir, elle était magnifique, ma robe.
Ouais.
C'était la robe de mes rêves, c'était ce que je voulais. Et puis, ben, je l'ai commandée.
Ouais.
Et puis, ma meilleure amie qui était ma témoin, sachant que je ne savais pas rouler, elle me dit, ben écoute, on va aller chercher ta robe quand même 15 jours avant.
Ouais.
Ok, pas de problème, on arrive au magasin, déjà on arrive là, ils nous disent, ah oui, mais vous avez vu, vous auriez dû prévenir, ben, j'en ai appelé. Mm. Oui, ben voilà, on prépare notre robe et elle va être prête. Donc ben, moi qui m'ai béquille, ma meilleure amie qui prend le sac avec la robe, et ma fille qui arrive, qui me dit, maman, ma reine elle t'appelle, t'as plus de robe.
Et pourquoi vous n'aviez plus de robe?
J'ai plus de robe. Et elle me dit, ma meilleure amie, là, regarde ta robe, elle dit, elle est remplie de taches partout, des taches noires, des taches de toutes les couleurs en dessous. Donc je rentre au magasin, je leur demande, et en fait là ils m'avouent qu'ils avaient oublié de me commander ma robe et qu'ils avaient voulu me refourguer celle qui était en rayon d'essayage.
Génial, super sympa.
Donc plus de robe, 15 jours avant le mariage.
Vous aviez choisi un thème pour votre mariage?
Oui, l'endroit où on rêve un jour d'aller, c'est le Canada.
Ah, génial! Quelle bonne idée! Alors, donc, il y avait quoi? Vous vouliez avoir un orignal dans la salle des fêtes, des orignaux?
Ben, on voulait tout ce qui était rouge et blanc, toutes les choses qui avaient rapport avec le Canada, et qui auraient pu se prêter. Le plan de table, on le voulait avec la liste des villes du Canada, toutes des choses comme ça.
Génial, génial.
Et là, on me dit, écoute, moi, je connais quelqu'un, ils sont super, le mari s'occupe de la sono, la femme fait le buffet, elle fait tout ce qui est déco. Franchement, ils sont top.
Super.
Bon, on me dit ça. Je dis, ben cool, on a tout, entre guillemets, les mêmes personnes qui s'occupent de tout.
Ouais, c'est sûr.
On les rencontre, on parle de tout ce qu'on veut. Elle me dit, franchement, ton rêve, il va être réalisé parce que ce sera un mini-Canada.
Génial.
Ok. Et puis, bon, là, on parle des préparatifs. Elle me dit, j'ai toute la déco. Je vois leur déco. Ils ont des traîneaux, ils ont des canons de neige, ils ont plein de choses. Et puis, vous rigolez, Flavie, mais...
Non, mais parce que c'est la façon dont vous le racontez. Je me dis, c'est génial, quoi.
Ah ouais, mais nous, on en avait plein les yeux. Hein.
Bah, j'imagine.
Et puis, ben, il faut quand même aller faire les courses. Donc, elle me dit, ben, est-ce que je peux avoir la carte de banque pour aller faire les courses? Donc, mon mari, mon futur mari, il me dit... Nous, on ne donne pas notre carte. Et on va payer tout ce qu'il faut payer, mais on ne leur donne pas notre carte de banque. Quoi.
Oui, bien sûr.
Donc, on se mariait le samedi. Le mercredi, je reçois un SMS qui me dit bah, « Puisque vous n'avez pas voulu donner votre carte pour les courses, bah, vous vous débrouillez, on vous lâche, on ne peut plus rien. »
Alors, attends. Donc, si je résume, quand même, 3 jours avant le mariage, vous avez été déplâtré.
J'ai été déplâtrée, oui.
Vous avez retrouvé quand même une autre robe ?
J'ai retrouvé la même.
Bon,
parce que ma meilleure amie s'est démenée pour la trouver.
Coup de bol. Mais enfin bon, déjà, vous étiez un peu éprouvée. Et donc, vous n'avez pas de buffet, pas de déco, pas de sono ?
Pas de sono, pas de buffet, pas de déco, pas de gâteau, plus rien.
Et vous avez fait comment alors ?
Alors, ma fille qui habite près de Paris, sur Internet, elle a été mettre des messages qu'on cherchait de la déco. On a essayé de courir à gauche et à droite. J'ai quelqu'un qu'on ne va pas connaître. Il me dit, écoute, moi, je fais tout ce qui est sandwich et tout ça. Il dit, j'ai jamais fait de buffet de mariage. Mais il dit, si tu veux, il dit, je te le fais. Donc,
sympa.
Une épine enlevée du pied.
Solidarité, quoi.
Le gâteau, ben, on est allé le voir à un boulanger en disant, ben, écoutez, on a expliqué. Ils nous ont dit, bon, ben, ça va, 3 jours avant, c'est encore faisable.
Ouais.
La sono, ben, on a quelqu'un aussi qui a vu par rapport à notre difficulté, il s'est proposé.
Ouais.
Alors que ben, à la base, il faisait une sono avec un de ses collègues et en fait, ils se sont séparés. Il y en a un qui a fait là et l'autre qui est venu chez nous.
Sympa.
La déco, on a tout retrouvé. Donc, j'ai fait la déco de ma salle moi-même avec ma meilleure amie.
Mais, et vous deviez être dans un état ?
Ah ben, j'étais entre le stress, les larmes. C'était catastrophe.
Et en même temps soutenu, quoi. Hein, c'est-à-dire qu'il y avait eu tout un élan de solidarité. Donc ça doit faire chaud au cœur quand on est à 3 jours de son mariage.
Ça fait chaud au cœur, oui. Mais l'histoire n'est pas finie. Si
bah non, je sais bien. Vous étiez nombreux ou pas ?
On était 150.
Vous connaissiez tout le monde ?
Il y a une personne que je ne connaissais pas.
Ah, bon, et elle s'est bien illustrée hein, pendant votre mariage, celle-ci. Hein.
Ah, mais génial.
Vous allez nous raconter ça dans un instant. Parce que c'est vrai que c'est parfois, dans un mariage, on fait la liste des invités et puis ben, on a des amis qui viennent accompagner. Quoi. Donc voilà, on ne sait pas véritablement sur qui on tombe. Et puis parfois, il suffit d'une personne. Hein, une personne pour faire basculer, finalement, une cérémonie, une fête de mariage. On se retrouve dans un instant, Sylvie. Ça va ? Tout va bien ?
Oui.
À tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL. Flavie Flamand sur RTL, jusqu'à 15h30.
On est prêt pour ça. Merci d'être avec nous. Nous sommes en direct et nous sommes tous pendus aux lèvres de Sylvie. Sylvie qui se marie le 10 novembre 2018. 5 semaines avant le mariage, elle se retrouve le pied dans le plâtre. Au moment où elle va chercher sa robe, en fait, elle se rend compte qu'on est en train de lui faire un petit peu à l'envers quand même, hein, Sylvie, parce que la robe que vous aviez commandée n'avait pas été commandée. Et donc, on a essayé de vous refiler la robe de présentation, je dirais, en vitrine, qui avait été 150 000 fois et donc qui forcément n'était pas dans le même état. Vous vous faites planter par la personne qui s'occupe du buffet, de la sono, de la déco, tout ça dans une atmosphère canadienne. Donc évidemment, ça n'est pas non plus une déco classique. Mais vous avez réussi avec beaucoup de solidarité et puis de ténacité aussi à préparer votre mariage. Le jour J, Sylvie, vous vous mariez. Ça y est, vous y êtes. J'imagine un grand soulagement, une grande émotion aussi parce que vous deviez être complètement crevée.
Honnêtement, on était crevés.
Ça, j'imagine. Et c'est vrai que dans ces moments-là, on a envie d'en profiter. La fatigue n'aide pas, hein, on est bien d'accord. Et je vous demandais si, effectivement, vous connaissiez tous vos invités. Parce que parfois, il faut se méfier, finalement, des accompagnants.
Ah, ben, c'est clair.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Ben, j'avais une amie que j'avais invitée au début des préparatifs qui me dit, j'ai un copain maintenant, est-ce qu'il peut venir avec ? Ben, oui, je vais pas lui dire non, voilà. Et puis,
vous auriez dû.
Ben oui, j'aurais dû.
La peau.
Le vin d'honneur qui sait, la soirée qui commence, et puis cette personne apparemment ne supportait pas trop l'alcool. Donc une première fois, on lui fait comprendre qu'il faut qu'il essaye de se calmer, parce que ben voilà, on est quand même 150, on n'a pas envie, comme tout le monde, que le mariage se termine en cacahuète.
Bien sûr.
Bon, il accepte entre guillemets notre remarque. Deuxième fois, ben, il recommence de plus belle. Donc là, ben, mon mari lui dit gentiment, ben, écoute, tu sais ce que tu fais, on te remercie, mais tu pars.
Ouais, ben oui, normal.
Donc il part. Et puis quelques heures, demi-heure après, on le voit revenir. Donc là, ça manque de finir en bagarre avec mon mari. Donc mon mari le met dehors, pas par la peau des fesses, comme on dit, mais lui fait bien comprendre que
pas revenir.
On ne veut plus lui. Et j'ai mon beau-fils qui est policier, mais en France. Et donc il y a ma fille qui est devant la salle avec mon beau-fils, avec mon mari, pour essayer de calmer le jeu. Et puis ben, cet individu n'a rien trouvé de mieux, il est monté dans sa voiture et il a voulu foncer sur tout le monde.
Oh, non mais attends, là ça devient dingue.
Et ce qui s'est passé, c'est que dans la rue de notre mariage, il y avait eu un incendie. Et il y a un invité de notre mariage que sa voiture a été incendiée. Et comme la police était là pour l'incendie et qu'ils sont descendus la rue, ils ont vu ce qui s'est passé, donc l'individu a pu être interpellé.
D'accord.
Mais après, il a fallu aller témoigner au bureau de police.
Ouais.
Donc, ben, me voilà arrivée en robe de mariée, mon mari en costume.
Non mais pardon. Donc vous étiez en robe de mariée, cette fameuse robe de mariée dont vous aviez tant rêvé, au commissariat de police.
Oui, tout à fait. Le mariage a terminé au bureau de police.
À 2h du matin.
Oui, il était 2-3 heures du matin, oui.
Et la fête continuait ?
Ben, la fête continuait, mais à un moment donné, forcément, ben, les gens sont partis un petit peu à la fois, quoi.
Bon, alors ça,
mais c'était pas tout.
Ben non, parce que bon, là, vous avez parlé de la France, parce que vous vivez désormais en Belgique.
Oui, je suis belge.
Alors, en août 2019, donc on va dire 10 mois plus tard, vous allez en Belgique. Et puis vous voulez faire un changement d'adresse, enfin le truc classique administratif. Et là, vous entendez un truc, je n'ai jamais entendu ça. On vous dit.
Ben, on va pour faire le changement d'adresse. Et puis mon mari est français, hein, de base.
Ouais.
Et puis quand il donne tous ses documents, on nous regarde et on nous dit, ben il y a un problème.
Ouais.
Ah, et quoi ? Eh ben, monsieur est marié avec vous, mais vous n'êtes pas marié avec lui.
C'est un petit peu bizarre, ça.
La France avait oublié de demander un papier important en Belgique. Et du coup, notre mariage n'était pas valable. Mais ça, on ne le savait pas.
Tu m'étonnes.
On n'aurait pas déménagé en Belgique, on ne le savait pas.
Donc, vous n'étiez pas marié ?
Légalement, non.
Qu'est-ce que vous avez fait ?
Donc, on a dû faire annuler notre mariage.
Oh, non, mais c'est fou.
Prendre un avocat, tribunal. 2000 euros de prêt.
C'est dingue.
Oui, c'est dingue. Et ça a traîné. Et nous, ben, on voulait qu'une seule chose, c'était se marier, quoi. Parce que.
Pauvre.
Voilà. Donc, ben, on a replanifié le mariage. Mais avec le Covid, ben, on a eu une première fois.
Et vous vous êtes pas dit à un moment donné que bah, je sais pas, vous pourriez vous paxer ou faire un truc.
Il y a beaucoup de monde qui nous a dit bah, vous voulez pas arrêter là.
Pardon. Oh là là.
Et bah, nous on s'est dit non parce que nous on avait envie de se marier. Et puis en plus de ça, mon mari fait un geste incroyable. Les garçons n'ont plus de nouvelles de leurs géniteurs et mon mari les adopte.
Ah, oh, c'est beau.
Donc du coup, pour les papiers administratifs, c'était plus facile aussi en étant mariés. Puis il y avait notre amour qui était là. On voulait que notre amour soit posé quelque part, quoi.
Donc vous avez réussi à vous marier.
Eh bien, on a annulé 3 fois à cause du Covid.
Oh.
Et ma fille me dit, fin d'année dernière, en décembre, elle me dit, écoute, on vient du 30 décembre au 2 janvier. Donc je vais voir à la mairie. Je dis, on peut se marier le 2 janvier. Ah non, parce que comme c'est le lendemain du 1er, on ne fait pas de mariage.
Donc vous vous êtes mariés le 30 décembre.
On s'est mariés le 30 décembre, un mercredi après-midi, à 4h. On a pris nos enfants, mon papa, ma belle-mère, on est partis à 10 et on s'est mariés.
On va se retrouver dans un instant, je vous garde avec moi Sylvie, parce qu'il en est une qui vous écoute, c'est Monique de Kermadec aussi, qui est psychologue et psychanalyste. Et franchement, je suis sûre qu'elle va saluer votre ténacité et votre amour. On se retrouve tout de suite Sylvie, on passe aux informations avec Hortense Crépin. On vous prend encore un petit peu de temps. À tout de suite.
RTL.
On est fait pour s'entendre.
Flavie Flamand sur RTL jusqu'à 15h30.
Est-ce que le mariage est assurément le plus beau jour de notre vie? Alors beaucoup évidemment comparent le mariage, mettent en rivalité, je dirais, le mariage et la naissance des enfants. C'est vrai que ce ne sont pas du tout les mêmes moments. Ils ne se préparent absolument pas de la même façon, mais en termes d'intensité, je dirais, c'est vrai que certains nous disent que le mariage a été un moment incroyable pour eux. Et vous, Sylvie, ça a été un moment incroyable et épique. Alors il en est qui vous écoutent et qui sont nos invités. Monique de Kermadec, qui est psychologue et psychanalyste, nous rejoint sur cette antenne. Monique, bonjour.
Bonjour, Flavie.
Vous avez entendu le témoignage
oui,
de Sylvie.
Oui, oui, oui. Moi, j'ai envie de dire
félicitations.
Bravo, Sylvie.
Oui, c'est ça. Oui. Vive les mariés.
Autant d'épreuves auraient séparé pas mal de couples dans les tensions. Et en fait, je trouve que ces épreuves ont révélé leur capacité à faire face à l'adversité. Plutôt que d'avoir une fête parfaite, les épreuves leur ont permis de se rapprocher, de consolider les bases de leur couple. Je crois qu'ils méritent toute notre admiration, tous les deux.
Mais oui, et c'est vrai. Merci. Sylvie, est-ce que vous avez eu des moments quand même? Alors, je ne sais pas si on a des moments de doute, mais en tout cas des moments de tension à un moment donné avec Vincent.
Des moments de doute, non, parce que on s'aimait. Mais c'est vrai qu'il y a eu des moments de tension, il y a eu des moments où on avait envie de baisser les bras, parce que... je veux dire, j'ai eu pas mal de soucis de santé, qu'il fallait quand même tout gérer entre deux. Il y a eu plein de choses qui ont fait que, oui, parfois, on avait envie de baisser les bras, mais on s'est dit, non, allez, on continue. Et puis.
Et vous n'en êtes que plus fort aujourd'hui?
On en est le plus fort, mais on n'a toujours pas vu le Canada, quoi.
Bon, alors ça, vous verrez le Canada. Ça, c'est la prochaine étape. Mais vous nous rappellerez pour nous dire comment ça s'est passé. Alors, Virginie Giraud, l'organisation d'un mariage. Alors, je ne sais pas combien de temps vous vous étiez pris avant, mais enfin bon, comme quand on a beau se préparer, on peut avoir des problématiques de dernière minute. Ça a toujours nécessité énormément de préparation, un mariage?
Ça dépend combien il y a d'invités.
Ouais.
Donc sur les très grands mariages, les mariages historiques de l'aristocratie, ça va prendre effectivement des mois et des mois. Je parlerai même pas du mariage de la reine Margot et du futur Henri IV qui se termine par la Saint-Barthélemy à un bain de sang dans Paris. Celui-là durait plusieurs jours, mais ça s'est pas très bien passé.
C'était pas très joyeux.
Et ensuite, dans les mariages qui vont avoir lieu plutôt à la campagne, en France, pendant le Moyen-Âge, l'Ancien Régime et même jusqu'au 19e siècle, on est plutôt sur des fêtes assez simples. Les jeunes se font la cour, ils demandent l'autorisation, ils se marient, c'est une journée de fête.
Mais c'était les parents qui organisaient les mariages ou c'était les mariés qui s'investissaient comme on a pu l'entendre avec Sylvie et Vincent?
C'est assez variable. Dans l'aristocratie, ça va être les parents souvent qui vont donner des directives à tout un aréopage de personnes qui vont
l'organiser. On marie les enfants, quoi.
Voilà. Et dans les familles plus modestes, plus campagnardes françaises, là, on va avoir un investissement de l'intégralité de la famille, mais pour quelques dizaines de personnes, grand maximum.
Monique de Kermadec, on a beaucoup de témoignages aussi d'auditeurs qui nous disent, moi, mon mariage, il m'a échappé parce qu'il a appartenu à mes parents, il a appartenu aux autres. C'est pas facile de s'emparer d'un jour pareil.
Tout à fait. Je crois que bon nombre, surtout de jeunes femmes, s'attendent à être au centre de cette fête. Le couple pense être au centre de la fête et en fait, ce sont les familles, les personnes, les invités qui viennent, qui exercent sans le vouloir d'ailleurs une pression sur le jeune couple. Si vous posez la question à la plupart des couples, ils vous diront que à la fin de la journée du mariage, ils étaient totalement épuisés.
C'est vrai.
Ils ont été stressés une bonne partie du temps. Quels qu'étaient les préparatifs?
Mais c'est intéressant ce que vous dites parce que la pression est inconsciente, mais parfois la pression, elle est consciente. C'est-à-dire que le mariage appartient aux parents. Ça devient une sorte de rendez-vous mondain entre les familles.
Tout à fait.
Et les enfants, enfin, pardonnez-moi, mais parfois sont accessoires, quoi. Et ça, il se joue quand même, je dirais presque le début d'une relation dans un mariage. La façon dont on va vivre son mariage, c'est une façon aussi de dire aux parents, bon, alors attendez, je vous explique, maintenant c'est ma vie. Est-ce que le mariage est l'occasion d'un affranchissement?
Alors, je pense que le mariage, de toute façon, est l'alliance de deux familles. On l'oublie un petit peu avec la notion de mariage d'amour, mais ce sont quand même deux familles qui s'unissent avec leurs intérêts réciproques. Et il suffit de voir les listes d'invités pour comprendre que les amis des parents sont souvent plus nombreux que les amis des mariés.
Mais c'est vrai. Et les plans de table et compagnie, où effectivement, on se rend compte qu'il y a peu de tables d'amis et beaucoup plus de tables de membres de la famille. En tout cas, votre famille, elle est très certainement belle à regarder, Sylvie, et je vous remercie d'avoir témoigné sur cette antenne. Voilà, avis au scénariste, qu'il
qu'il vous appelle, parce que c'est quand même une grande histoire et on vous souhaite plein de bonheur. Merci beaucoup, Sylvie. Je vous embrasse depuis la Belgique. Et puis nous, on va poursuivre notre conversation. On a Arnaud, qui est un grand romantique aussi, qui nous attend pour témoigner sur cette antenne. Alors lui, ça s'est formidablement passé. Il va nous expliquer ça. À bientôt, Sylvie.
Au revoir, Sylvie.
RTL. On est fait pour s'entendre. 14h30, 15h30.
On est fait pour s'entendre.
Avec Flavie Flamand sur RTL.
Virginie Giraud et Monique de Kermadec sont nos invités pour parler du mariage. Est-ce que c'est vraiment toujours le plus beau jour de notre vie? Alors, quand on écoute Sylvie, bon, bah oui, ça reste un jour épique, mais sûrement aussi le jour de la consécration de leur amour. Hein, mais c'est un mariage qui a duré très, très, très peu de temps et très longtemps en même temps. Et puis Arnaud va intervenir sur cette antenne dans un instant. Mais alors, lui, le problème a été réglé tout de suite parce qu'en fait, il s'est chargé de l'organisation de son mariage. Virginie Giraud, en fait, je disais ça à Monique de Kermadec il y a un instant, finalement, on s'affranchit ou pas de nos parents et de la pression, je dirais, familiale quand on organise soi-même son mariage. Mais il a toujours été de coutume de laisser les parents s'en occuper, non ?
Exactement, puisque c'est une réception qui est organisée par les parents et comme le soulignait Monique de Kermadec, ce sont deux familles qui s'unissent. Et on a perdu un peu de vue cet esprit, mais ça a sous-tendu toute notre civilisation occidentale depuis ses débuts jusqu'à la fin du XXe siècle.
D'accord, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, un mariage moderne, pardon, mais c'est un mariage où on refuse cet héritage historique, quoi, non ?
Exactement, et on voit beaucoup de jeunes couples se marier aujourd'hui avec un groupe très restreint d'amis, ou parfois partir aux États-Unis sur une île, faire ça à deux, avec deux témoins parfois loués par les hôtels, ça existe. Et effectivement, c'est un véritable affranchissement de la cérémonie du mariage, et là, ça devient la consécration d'amour à deux personnes.
Et est-ce que ça remet en question, justement, le sacro-saint mariage, selon vous?
Ah oui, tout à fait, mais il est déjà remis en question dès lors que le divorce est devenu quelque chose de très facilement accessible. Mmh. Et quelque part, tant mieux, parce qu'on n'est plus enfermé dans un mariage malheureux.
Bonjour Arnaud.
Bonjour. Bonjour Arnaud.
Voulez-vous m'épouser? Bah non, vous êtes marié. Non, mais parce que alors, voilà un mariage qui m'aurait bien éclaté.
Ah, c'est très beau, c'est magique. Hein.
Ah, c'est génial. Bien. C'est vraiment le plus beau jour de votre vie?
Ouais, surtout que bon, je me suis marié le lendemain de mon mariage, donc
on a fait
un beau voyage.
Vous vous êtes?
Je me suis marié le lendemain de mon anniversaire.
Ah pardon. D'accord. Ah oui, vous avez fait la totale, vous. Ouais. D'accord.
Ouais, c'est ça. Voilà. Mais en fait, le but c'était, elle croyait que c'était pour mon anniversaire ce voyage.
Bon, en fait, vous avez fait un voyage, vous avez emmené Cécile.
C'est ça.
En voyage pour votre anniversaire. Vous êtes allé où?
Alors on est allé aux Philippines.
Waouh, génial. Ouais. Mm-hmm.
Très beau pays. Ouais. Donc j'ai fait ma demande là-bas, dans les rizières.
Et dans les rizières, mais enfin bon, en même temps, vous étiez sûr de sa réponse?
On n'est jamais sûr.
Bah ouais, c'est ça, parce que c'est la demande en mariage, c'est quand même un grand vertige, quoi. Ouais.
On n'est jamais sûr. Ouais. Et ensuite, après la demande, donc on s'est marié là-bas directement.
Donc c'est-à-dire que
sur une île.
Alors, voilà. Au pied des rizières, Cécile, veux-tu m'épouser?
Voilà.
Donc Cécile en larmes. Enfin, je rêve, hein, pardon, hein, je suis en train d'imaginer un truc.
Ouais.
Cécile hyper heureuse, vous glissez la bague de fiançailles au doigt de Cécile.
Et ouais, j'étais dans mes chaussures, hein, tout.
Ah ouais, la totale, quoi. Ouais, ouais, d'accord.
Ah, parce qu'elle fouille beaucoup. J'ai pas les mettre.
Ouais.
À l'aéroport, j'avais peur que ça sonne, hein. Bon, ça n'a pas sonné.
Ah, tu m'étonnes. Mais alors, et dites-moi, donc, elle vous a demandé quand? Parce que bon, elle vous dit oui aux Philippines, mais est-ce qu'elle savait qu'elle allait se marier dans la foulée?
Ouais, ben juste après, elle me dit, mais quand est-ce qu'on se marie? On rentre en France? Ou... Alors, je lui dis, non, dans 4 jours, on se marie donc sur une île en Suisse. Alors là, bah, du coup, la question, mais j'ai pas de robe, j'ai rien, quoi.
Alors
mais enfin, tout est prêt. Enfin, donc, Pauline, qui s'est occupée de moi, celle qui. Alors, j'ai commandé la robe.
Planner, hein, ouais.
C'est mm-hmm. ça. J'ai commandé la robe et je l'ai fait envoyer donc, chez elle. Elle est sur Rennes. Et ensuite, elle nous a rejoint, en fait, deux, trois jours avant le mariage.
Ah, d'accord. Donc, ça veut dire qu'il y avait des proches, quand même, qui venaient?
Alors, non. On n'était que tous les deux. Voilà. On a fait ça un peu égoïstement. Moi, c'était un second mariage. Donc, ouais. Donc, j'ai fait un mariage classique, déjà.
Ouais.
Voilà, qui était beau aussi. Hein.
Ouais.
Et là.
Là, vous vouliez que ce soit votre moment, quoi.
C'est ça.
Donc, vous n'étiez que tous les deux.
Ouais.
D'accord. Votre wedding planner est venu apporter la robe.
Ouais, elle s'est occupée un peu de tout. Maquillage, photographe. On a eu une photographe qui était sur place aussi. On a fait travailler que les gens de là-bas.
Mais Cécile, elle devait halluciner, non?
Ouais, c'était. c'était pas mal. En plus, j'ai eu une chance folle parce que pas d'essayage de robe, la bague, enfin les deux bagues, parce qu'il y a eu la bague de demande et la bague au moment où on s'est marié.
Ouais.
Tout était nickel.
Tout est passé. Donc ça a été touché par la grâce ce moment.
Ouais, ouais, chance.
Et ça fait combien de temps?
Là, ça va faire un an et demi. Enfin, ouais, ça va être, ça va faire deux ans. Ouais.
Vous en parlez encore?
Ah oui, oui. Ah, surtout quand on voit les photos.
Ouais, c'est l'une des plus belles surprises de sa vie, j'imagine.
Je pense.
Et quand vous êtes rentré, vous avez annoncé à votre entourage que vous étiez marié. Personne ne le savait.
C'est ça. Il y avait qu'un proche à moi qui savait, parce que des fois, j'étais obligé d'en parler quand même.
Ouais.
Pour l'organisation. Mais sinon, personne ne le savait. Non.
Et comment votre entourage a-t-il réagi?
Ah ben, bon, les parents l'ont bien pris, mais bon, pour une année, mais vous allez faire quelque chose en France quand même, parce que
et les enfants,
bon, on a des enfants en plus. Alors, c'est pas, on l'a pas fait encore, parce que bon, nous, on est traiteurs, on est aussi de la partie.
Ah oui, donc vous préparez les mariages des autres aussi.
Voilà. Mmh. Et c'est vrai qu'avec ce qui s'est passé, les événements qui sont passés, on a un peu repoussé tout ça.
Mais j'imagine. Voilà. Mais enfin, bon, vous le ferez en famille, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que vous vous êtes emparé de ce moment. Vous avez décidé qu'il ressemblerait à ça, et en plus de ça, ça a été magique. Comme quoi, parfois, il faut juste être deux, s'aimer. Et puis, un petit billet pour les Philippines aussi, quand même. Hein.
Ouais, c'est ça. J'ai préparé ça pendant quand même presque une petite année.
Ah, c'est beau ça. C'est super. C'est super.
Tous les soirs, voilà, tous les soirs, je disais à madame que je faisais des devis, mais en fait, j'étais avec Secret One qui s'occupait de tout ça.
Bah, c'est beau. Ouais. Eh bien, je vous remercie en tout cas de nous avoir raconté votre belle histoire, Arnaud. Et on vous souhaite longue vie avec Cécile et avec les enfants. À bientôt, Arnaud, sur RTL. Merci pour ce souvenir.
Sur RTL. 14h30, 15h30. Flavie Flamand sur RTL.
Alors, Virginie Giraud, dites-moi. Alors là, bon, voilà un mariage qui a rendu terriblement heureux les deux mariés parce que c'était un mariage qui n'appartenait qu'à eux. Mm-hmm. Est-ce que ça ressemble à ça, le mariage moderne?
Effectivement, ce serait ça, un mariage qui n'appartient plus qu'aux amoureux, qui consacrent leur amour de cette manière. Ça veut dire que là, pour la première fois de l'histoire, on s'autorise à échapper au poids de la famille, donc à cette tradition de deux familles qui s'unissent, pour se consacrer seulement à l'autre. C'est un acte qui, de social, devient égoïste.
Oui, oui. Mais c'est d'ailleurs ce qu'il a dit, on s'est mariés égoïstement. Mmh. Alors que moi, je trouve qu'ils se sont mariés librement, Monique de Kermadec.
Oui, je suis tout à fait d'accord et je trouve très intéressant de voir cette évolution du rapport au mariage. Ouais. Où on privilégie ce rapport intime avec l'autre et on met tout à fait en arrière-plan la notion d'alliance avec un S même, d'alliance qui sont quand même importantes pour la solidité du couple et pour sa pérennité. Ce qui paraît prometteur et en fait féerique et magique, un peu conte de fées, fragilise quand même de façon assez importante le couple. Ce n'est plus un engagement et un engagement social.
Et Monique, est-ce qu'aujourd'hui le mariage est considéré pour les plus jeunes comme une valeur refuge? J'ai vraiment le sentiment qu'il y a les pour et les contre. J'ai l'impression qu'il n'y aura plus de mariage tiède. J'ai l'impression qu'on ne se mariera plus parce que c'est dans la convention. Il y en a qui sont vraiment convaincus. Moi, je connais des jeunes de 25 ans qui se marient. Et d'autres qui considèrent véritablement qu'ils ne se marieront jamais.
Mais dans un cas comme dans l'autre, j'ai l'impression que le rapport à l'engagement a foncièrement changé.
Ouais, je suis d'accord.
Il est toujours question de son engagement personnel par opposition à ce qui était un engagement beaucoup plus large et social auparavant.
Oui.
Alors, bien évidemment, c'est ce qui existe aujourd'hui dans notre société, mais nous perdons quand même un soutien et un soutien important dont on peut avoir besoin au cours des années.
Virginie Giraud, votre point de vue sur le mariage aujourd'hui, vous qui êtes historienne?
On vit, comme je vous le disais, une nouveauté, mais là où Monique de Kermadec a raison, c'est que finalement, comme on ne se marie plus pour un engagement, mais pour consacrer son sentiment amoureux, si on n'est pas capable d'investir ce sentiment dans un lien affectif, dans des constructions ensemble, dans des projets, et bien dès lors que le sentiment amoureux disparaît, on se demande ce qu'on fait avec cette personne. Et est-ce que finalement, il n'y a pas aussi du bon dans le mariage contrat où on devient partenaire? Je ne sais pas.
La question, en tout cas, restera posée auprès de nos auditeurs. Je vous remercie tous d'avoir témoigné, d'avoir envoyé des messages. Stéphanie qui dit que c'est le plus beau jour de sa vie. D'autres, effectivement, qui disent que rien ne peut égaler la naissance de leurs enfants. Et puis Nathalie qui dit « no comment, moi j'aurais mieux fait de me casser une jambe ». Voilà, ça a été presque le cas de Sylvie 5 semaines avant. Voilà, Isa qui nous parle des petits bonheurs qui comptent davantage que ce genre de grands jours. En tout cas, merci beaucoup pour tous les témoignages que vous nous avez laissés. Et
si vous êtes en plein préparatif de votre mariage, eh bien, on vous souhaite tout le bonheur du monde. Virginie Giraud, merci d'avoir accepté mon invitation. On se retrouvera à la rentrée dans cette nouvelle émission qui s'appelle Jour J. En attendant, je conseille votre ouvrage Les femmes et le sexe dans la romantique aux éditions Talendier. Merci, merci beaucoup, à bientôt. Monique de Kermadec, les surdoués, ils ont le droit d'être amoureux et de se marier aussi. Voilà, et puisque effectivement c'est votre spécialité, on va citer votre dernier ouvrage, Albin Michel, Les surdoués et l'amour. Merci beaucoup Monique de Kermadec. À très bientôt sur RTL. Je vous embrasse. Merci à vous tous de nous avoir suivis. C'était encore une fois très intéressant et un plaisir de vous écouter. On aura grande émotion à vous écouter jusqu'à la fin de la semaine pour la dernière d'En effet pour s'entendre vendredi. Rendez-vous demain dès 14h30 sur l'antenne d'RTL. Nous serons en direct. Je vous embrasse. Prenez soin de vous.